revue d'ensemble de l'actualité.
I will be putting forth a nominee next week. It will be a woman.
Drainville PM.
Alors, c'était Donald Trump donc qui affirmait là que il allait remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg par une autre femme, mais vous pouvez être certain que ça va être une femme conservatrice. Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Bon, là, ça peut sembler vraiment très, très loin de nous, là. Tu sais, je veux dire, qui compose la Cour suprême aux États-Unis, là? Puis pourquoi? Dis-nous pourquoi le décès de cette super juge Ginsburg et la question qui s'ensuit doit nous intéresser. Pourquoi?
D'abord parce que la Cour suprême des États-Unis, commençant, je dirais, dans les années 80, a commencé à se politiser au sens partisan de la chose. Vous aviez des juges dits conservateurs et des juges dits progressistes. Et historiquement, les juges progressistes, c'est pas le cas présentement, mais ont eu la majorité à la Cour suprême. Cependant, c'était à une époque où on ne jugeait pas la Cour suprême sur une base partisane. Depuis la fameuse décision concernant l'avortement,
oui.
Les mouvements de droite, les mouvements ultra-conservateurs ont décidé que la Cour suprême, c'était par là que tout passait et qu'il fallait placer leurs pions dans la Cour suprême pour qu'on se fasse plus jamais prendre avec des histoires comme l'avortement et la peine de mort. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Ruth Bader Ginsburg, c'est une juriste absolument exceptionnelle. Là, tu regardes juste sa feuille de route, c'est absolument renversant. Elle est diplômée de l'Université Cornell, de l'Université Harvard, de la Columbia Law School. Elle a enseigné dans les plus grandes universités. Et c'était à sa façon une militante féministe qui a même réalisé une étude qui a fait époque sur le sexisme dans le régime légal américain. Et là, ben, elle a attendu, il y en a qui lui en veulent, enfin, elle est décédée, Dieu ait son âme, mais il y en a qui disent elle aurait dû démissionner avant, à l'époque où Obama finissait son terme, pour qu'on puisse enfin mettre quelqu'un là, parce que là, si...
Parce qu'elle a combattu plusieurs cancers, il faut dire, ça fait plusieurs
depuis
fois.
Depuis 2009, cancer du pancréas qui revenait à intervalles réguliers.
Non, c'est ça.
Alors, là, Trump, il se trouve, normalement, aux États-Unis, à partir du moment où le président présente une nomination à la Cour suprême, il se passe 68 jours entre ce moment-là, puis le moment où la personne est confirmée. 68 jours, c'est trop long pour se rendre le 3 novembre, alors que... Et souvenons-nous qu'en 2016, lors de la campagne qui a vu l'élection de Trump, les républicains avaient fait front commun pour empêcher Obama de nommer quelqu'un parce qu'il disait la dernière année ou dans l'année d'une élection présidentielle, c'est inacceptable, c'est une question de principe. Okay. Tous les ténors du parti le disaient. Okay. Et là, soudainement, c'est plus vrai, là. Là, c'est vite.
Ouais, OK. Ben, Luc, prenons un peu de recul. OK. Actuellement, t'avais 5 juges plutôt conservateurs, 4 plutôt que progressistes, dont la juge Ginsburg. Bon.
Oui.
Bon. Et là, évidemment, la crainte, c'est que la Cour suprême, si Trump réussit à nommer une autre juge, ça va être, si je ne me trompe pas, le troisième juge qu'il va nommer,
oui,
de tendance conservatrice. Ce que craignent les femmes, notamment beaucoup de femmes aux États-Unis, c'est que s'il réussit à nommer une autre juge conservatrice, on va se retrouver avec 6 juges de tendance plutôt conservateur-conservatrice, 3 de tendance plus progressiste. Et donc, ce que craignent certaines militantes, par exemple, pour le droit à l'avortement, c'est que cette nouvelle Cour suprême, qui l'aura reconfigurée par ses nominations, va amener un rétrécissement du droit à l'avortement et de d'autres droits qui favorisaient les minorités, qui favorisaient les femmes, etc., etc. C'est ça l'enjeu là, de l'affaire. Là.
C'est ça l'enjeu, effectivement. Et il tient absolument... Tu vois, à l'heure actuelle, il a nommé Gorsuch. Gorsuch s'est avéré dans les décisions auxquelles il a participé depuis sa nomination ne pas être si conservateur qu'on prévoyait.
Exact.
Brett Kavanaugh, ben lui, c'est le chien de Trump. Lui, il va aller directement dans ce sens-là. John Roberts, qui a été nommé par George W. Bush et qui est le juge en chef de la Cour suprême, était vu comme un conservateur. C'était un choix de George W. Bush. Lui aussi, en pratique, s'est avéré être avant tout un juriste qui est
donc assez centriste, oui.
Assez centriste, en fait, oui. Qui a donné son vote selon des critères juridiques.
Oui.
Alors, c'est ça la grande débat aux États-Unis. Toi, tu parles de certains groupes de pression. C'est beaucoup plus large que ça parce que Trump, depuis qu'il est président, sans qu'on s'en rende compte parce que ça fait pas les manchettes, tous les juges de juridiction fédérale, puis ce sont les plus importants, sont nommés par lui à coups de centaines par année. Et il a nommé des juges tellement ultra-conservateurs que parfois ça en est risible, des gens qui croient à des théories du complot, ou encore un juge dans une cour équivalente de notre cour supérieure qui a jamais plaidé devant une cour de sa vie. C'était un avocat qui avait travaillé comme recherchiste dans un cabinet d'avocats, mais très, très, très à droite. Alors, la crainte, c'est que ça va nous... Même si on élit Biden puis oui. d'autres progressistes, pendant des décennies, oublie pas qu'aux États-Unis, ils sont nommés à vie.
Oui, c'est ça.
Au Canada, c'est 75 ans. Aux États-Unis, c'est à vie.
Jusqu'à
Alors,
ce que
pendant
tu...
des décennies, oui. ça pourrait être entre les mains de la pensée conservatrice.
Et donc, ce que ça veut dire, Luc, c'est que si Trump réussit à nommer une troisième juge, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a bien entendu, ça va être une femme. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche exhaustive, mais des présidents américains qui ont eu l'occasion de nommer trois juges de la Cour suprême à l'intérieur du même mandat de 4 ans, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, je suis certain de ça. Et donc, ça devient, peu importe qu'il soit vainqueur ou battu au mois de novembre...
Il va laisser derrière lui un héritage très, très, très important
exact.
À cause de ça.
Ça devient son principal héritage.
Effectivement. Et là-dessus, les conservateurs... Tu sais, c'est pas vraiment un débat vu du Canada, parce qu'on n'a pas ces débats-là. Ça a l'air d'être un débat entre les élites. Non. C'est rendu chez les conservateurs, là, ceux qui appuient Trump aveuglément, les évangélistes, tout ça. Eux autres, ils viennent de voir leur chance. Ils vont redoubler d'efforts. Mm. Et moi, je pense qu'à la longue, ça va servir Trump.
Ça va servir Trump parce que ça va mobiliser sa base.
Ça va mobiliser sa base énormément.
Mais ça peut peut-être mobiliser la base de Biden aussi, les femmes
elle est
notamment.
Tellement, oui. Non? Mais la base de Biden est divisée. Tu sais, il n'y a pas cette croyance, on va aller avec Joe, puis ta, comme on voit avec Trump. Il n'y a pas ce mouvement populaire pro-Joe Biden. Alors, ça risque de... Et quand il y aura nommé quelqu'un, OK? Tu prends Gorsuch, là, celui qui est le premier que Trump a nommé. Mm. Moi, je l'avais regardé dans une entrevue à PBS. Écoute, c'était un homme remarquable. Puis son CV était également remarquable. Alors, s'il arrive avec quelqu'un qui est connu pour des positions plus à droite en termes politiques, mais qui, sur le plan juridique, est ultra respecté, les démocrates vont avoir de la difficulté à s'y opposer. Ça sera pas simple.
Ouais. En tout cas, à surveiller parce que ça pourrait avoir un impact très important sur la suite des choses aux États-Unis. Bon, par ailleurs, en fin de semaine, l'ancien premier ministre du Canada, John Turner, est décédé. Et toi, tu l'as connu.
Je l'ai assez bien connu.
Alors, il a été premier ministre pendant 3 mois.
11 semaines, oui.
Ouais, 11 semaines. Et alors, j'ai le goût de te demander pourquoi tu veux nous parler d'un premier ministre qui a été premier ministre pendant 11 semaines.
Ben d'abord parce que ça a été un gars très, très, très important dans l'histoire politique du pays. Ça a été il a été au candidat au leadership contre Trudeau en 68, puis il a fini troisième. Ensuite, il a été ministre des Finances, il a été ministre de la Justice. Il a été là à des moments clés.
Ouais.
C'était aussi le candidat de rêve des libéraux. Ceux qui se souviennent de John Turner dans ses belles années, tu sais, il y avait un look à la Cary Grant, et puis les yeux bleus.
Voilà,
c'était un surdoué.
Ouais. C'est un athlète accompli, Rhodes, hein? Athlète accompli.
Ben ouais, oui, qui avait fait l'équipe olympique canadienne de natation en 48. C'était un gentleman
de natation,
d'un autre temps.
D'athlétisme, je pense.
En athlétisme, je pense que c'était
c'est un sprinter. Ouais. Mais finalement, il n'a pas pu participer aux Olympiques parce qu'il a été blessé. Voilà. Mais il avait fait l'équipe.
Il avait fait l'équipe olympique. Alors, John Turner, c'était un gentleman d'un autre temps. Ceux qui s'en souviennent, c'était pendant la campagne de 84, là, tu sais, quand il avait donné une petite tape aux fesses à la présidente du Parti libéral,
ouais,
Mme Campagnolo.
Ouais.
Puis quand il avait fait la même chose avec une candidate au Québec qui s'appelait Saint-Martin.
Il était un petit peu dépassé sur le plan.
Disons qu'il avait la main légère. Je me souviens même d'une fois, mais ça, j'en revenais pas. Il recevait les journalistes à sa résidence officielle de chef de l'opposition, Stornoway. Ils faisaient ça une fois par année. Alors, ils accueillaient les gens, là, puis on prenait un verre, puis on... Bon. Alors, à un moment donné, arrive Pamela Wallin, qui est devenue par la suite sénatrice, mais à l'époque, elle était une vedette de la télévision. Pamela Wallin arrive, c'était une très jolie femme, Turner la regarde de haut en bas, sans aucune subtilité, puis il lui dit... « Wow, vous avez des beaux souliers. J'imagine que ces souliers-là ont dû se retrouver en dessous de beaucoup de lits. »
Non!
Oh boy! Je l'avais entendu moi-même, Bernard.
Mais ben là, franchement, c'est un peu épais, là. C'est la preuve que l'intelligence puis le jugement vont pas toujours ensemble.
Ouais, c'est la preuve aussi que l'alcool aide pas tout le temps, là, parce que je pense que c'était un de ses problèmes. Mais ceci étant dit, en personne, c'était un gentleman. En tant que débatteur, si je peux employer ce néologisme à la Chambre des communes, c'était un gars extrêmement respectueux de ses adversaires.
Mais très efficace aussi comme parlementaire. Il était très à l'aise dans l'arène.
Il pouvait être assez à l'aise, mais c'est que quand il a quitté la politique, c'est-à-dire qu'il s'est fait sacrer dehors du cabinet par Trudeau en 75, Trudeau n'était pas capable de le blairer. Il est allé dans la pratique privée du droit, il a fait beaucoup de fric à Toronto. Puis quand il est revenu en 84... Qu'est-ce qu'on avait devant nous? Le grand John Turner était rouillé.
Oui.
D'abord, il avait beaucoup perdu de son français. C'était un gars qui s'exprimait bien en français. Il avait même étudié en France. Et il avait été son premier comté. C'était un comté de Montréal, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Alors John Turner, c'est un gars qui...
Mais il était rouillé au niveau de son français, puis il était rouillé au niveau de ses manières. Il avait comme pas évolué manières, avec le temps, Luc.
Au niveau de ses manières, puis au niveau des grands débats de l'heure. Il parlait comme il parlait en 72. On est rendu en 84. Il a quand même fait deux campagnes électorales.
Mais tu sais, on en a déjà discuté. Il aurait pu gagner celle de 88. Pendant une partie de la campagne électorale de 88, Turner est en avance sur Mulroney.
Il y a eu un renversement après le débat anglophone. Il y a eu un renversement énorme. Ça a tourné, là, je pense que c'était quelque chose comme 42-32, puis c'est devenu 42-32.
Mais Turner avait gagné le débat en anglais.
Il avait gagné le débat en anglais.
I happen to believe you sold us out.
That's right. C'est lui qui avait sorti ça.
Ouais, tu nous as vendu aux Américains. C'est le débat sur le libre-échange.
Puis en plus, là, c'est très personnel, mais Turner, il souffrait d'un problème très grave du nerf sciatique pendant la campagne électorale de 88. On le sentait en souffrance, et je me souviens, lors du débat en question, ça se passait dans les studios de CJOH à Ottawa, et il y avait des espèces de maisons mobiles qui avaient été installées comme loges pour chacun des participants, Broadbent, bon... Monsieur Turner, Monsieur Mulroney, tout ça. Mm-hmm. Et moi, je le connaissais, je l'avais connu comme journaliste. Fait qu'à un moment donné, j'étais à l'extérieur de la maison mobile, puis je le vois qui avait de l'air à souffrir. Puis je suis allé le saluer. Puis j'ai dit, vous avez pas l'air bien, Monsieur Turner. Puis il a dit, c'était so painful. Ça fait tellement mal.
Ah, mais j'ai déjà eu ça, moi, tu sais. J'ai été hospitalisé pour ça. Hein?
Ça fait mal, il paraît que c'est
épouvantable. Un sciatique, ah, c'était écœurant, là.
Puis là, il fallait qu'il continue de faire campagne. Il tirait de la patte. Malgré tout, il a mené une campagne qui en a étonné plus qu'un, parce que en 88, souvenons-nous qu'à la veille du déclenchement de l'élection, il y avait un putsch qui avait été organisé contre lui.
Oui.
11 députés libéraux, c'est quand même pas rien, qui voulaient que Chrétien prenne sa place immédiatement. Mm-hmm. Il avait réussi à résister à ça. Il avait traversé la campagne électorale. Il avait chauffé les conservateurs comme on s'y attendait pas. Et voilà, tu sais, John Turner nous a quittés. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. C'était un gentleman old style, old school.
Ouais. Il a été salué par tous. Ben évidemment, quand les gens meurent, en général, ils sont salués par tous. Mais ça m'a frappé. Il y a certains témoignages qui m'ont frappé. Puis, tu sais, comme un gars comme Neil MacDonald, qui est un grand correspondant à Ottawa, qui est un dur de dur, je vais te dire, moi, j'ai fait une couple de voyages avec lui, là. C'était pas Neil MacDonald, là, c'était pas un doux, là. C'était un journaliste qui était très costaud, puis qui pouvait être extrêmement incisif, puis pugnace. Et il a tweeté, Turner, c'était un gentleman, justement. C'était un gars qui avait beaucoup de classe. Neil MacDonald, ancien correspondant de la CBC, là, à Ottawa, à Washington, dans plein d'endroits.
Oui. Puis bon, à Jérusalem aussi.
Oui, voilà. Pour qu'il sorte sur Twitter pour dire, pour rendre hommage à Turner, ça, j'ai fait, oh, OK. Turner, il pouvait être quelqu'un de très, très, très respecté par des journalistes qui sont capables d'être très critiques des politiciens.
Oui. Et Turner, c'était dur de ne pas l'aimer. Ah. Si tu faisais sa campagne avec lui, j'en ai fait un bout en 84, là, que j'étais encore journaliste. C'était dur de ne pas l'aimer, mais il avait perdu cette espèce de naturel que les vrais politiciens ont.
Ouais.
Moi, je l'ai pas suivi avant qu'il quitte la politique en 75, donc je peux pas faire de comparaison. Mais le gars qui est réapparu en 84 avait été une grande déception pour tous ceux qui le surveillaient et pour ses partisans aussi.
Luc Lavoie, on se reparle un peu plus tard.
À la prochaine.
Et là, je vous l'ai promis, j'essaye de tenir mes promesses le plus possible. Et après la pause, ce sera le docteur Gary Cominger sur le vaccin et les conflits d'intérêts qui existent entre des chercheurs et des compagnies pharmaceutiques. Restez à l'écoute.